La lecture de ce matin se trouve dans le psaume 78 et nous allons lire quelques versets parce que le psaume est très long, mais nous ne lirons que les premiers versets. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future et des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance et n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Le psaume 78 est particulier parce qu'il concerne une période troublée d'Israël. Quand on lit les psaumes d'Asaph, il y a plusieurs psaumes qui sont d'Asaph, on se rend compte qu'il a écrit dans une période troublée. Et en le lisant, je situe à peu près à la période du roi Manassé. C'est après la chute d'Israël, le royaume a été divisé en deux. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. C'est après Salomon, Dieu a jugé le règne de Salomon. Le peuple d'Israël, en tant que nation, a été divisé en deux nations. Il y avait les 10 tribus qui étaient le royaume du nord et 2 tribus qui étaient le royaume du sud. Les tribus du royaume du sud, c'était Juda et Benjamin. Et d'ailleurs, quand on parle de juifs, ça vient de Juda. Et ça concerne le royaume du sud. Et le peuple d'Israël, la plupart de ceux que l'on connaît, des enfants d'Israël, sont de Juda. Parce que le royaume du nord a été emmené en déportation par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. C'était du temps du règne d'Ézéchias. Voilà. Mais les Assyriens, qui avaient fait une grande victoire sur le royaume du nord, convoitaient bien plus Jérusalem et le royaume du sud. Alors, Sennachérib a fait une invasion. Est resté Jérusalem et ceux qui étaient dans Jérusalem. Et même Jérusalem a été fortement menacée, si bien qu'ils ont crié à Dieu et il y a eu une délivrance de la part de Dieu. Et les Assyriens sont repartis. Et même ils ont laissé beaucoup de morts dans l'histoire. Ça a été un moment très 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 difficile. Donc quand on lit les psaumes d'Asaph, eh bien on se rend compte qu'il y a eu cette grande événement, ce qui les a troublés terriblement. Asaph, quand il parle, eh bien, c'est presque une confession de « voilà, nous sommes détournés, il nous est arrivé des malheurs, on a eu des problèmes parce que nous n'avons pas été fidèles ». Et même au verset 9, il dit « les fils d'Éphraïm ». Éphraïm, c'était le roi du nord, était descendant d'Éphraïm. Alors, les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. Voilà, c'est le grand drame. Le royaume du nord, tout de suite, s'est détourné de Dieu. C'est le culte au vrai Dieu et resté fidèle dans le royaume du sud. Pas toujours, hein. Mais le royaume du nord se sont détournés de Dieu. Et Asaph, eh bien, présente son psaume comme un acte de repentance. Il reconnaît les torts. Il dit, voilà, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous n'avons pas agi comme il le fallait. Et c'est très, très important, vous savez, quand on se tourne vers Dieu, de se repentir et de reconnaître ce que nous sommes. Il y a des moments où on dit, Seigneur, je ne suis pas le chrétien que je dois être. C'est vrai que quand je lis ta parole, je me rends compte qu'il y a bien des lacunes dans ma vie. Je ne prie pas comme il le faut. Je ne lis pas ta parole avec tout l'intérêt que je devrais la lire. Je ne la médite pas comme il le faut. Et c'est dans certaines situations, je n'agis pas comme il faudrait que j'agisse comme un chrétien. C'est cette repentance qui est très très importante. C'est cette prise de conscience que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous devrions faire. C'est Dieu a des exigences et nous ne les remplissons pas. Nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. Parfois, il faut faire un bilan et un constat de notre vie et de dire, Seigneur, je ne suis pas ce chrétien que tu voudrais que je sois. Et il est bien rare qu'un chrétien puisse dire, ah ben, je suis impeccable, hein. Tout est parfait dans ma vie. Si vous le dites, c'est que vous avez les yeux aveuglés, que vous êtes obscurcis, vous n'avez pas encore bien vu ce qui ne va pas. Comme Dieu avait délivré une délivrance imprévue, parce que selon toute logique, on aurait pu dire le royaume de Juda aurait dû partir en captivité comme le royaume du Nord. C'est les Assyriens auraient dû l'amener. Et in extremis, Dieu est intervenu et a changé le cours des circonstances. Ce qui était prévisible, eh bien, n'est pas arrivé. Et c'est ce que Kazap veut souligner. Il veut dire, voilà, nous avons mérité que Dieu intervienne, que Dieu mette un terme à la présence d'Israël dans cette région. Eh bien, Dieu, dans sa miséricorde, est intervenu. Alors, ce qu'il dit, c'est nous avons entendu ce que nous... C'est le verset 3. Ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à nos enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. C'est-à-dire que, voilà, Dieu a fait quelque chose et nous ne le cacherons pas à nos enfants. Alors, c'est un retour à l'origine même de la délivrance de Dieu. Dieu a délivré son peuple qui était en Égypte. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et un jour, Dieu miraculeusement est intervenu et a mis un terme à l'esclavage du peuple et l'a délivré, l'a libéré et l'a fait sortir du pays d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et le peuple a été, ce peuple affranchi, ce peuple libéré, a été appelé le peuple de Dieu. Et Dieu s'est révélé d'une manière spéciale au peuple par l'intermédiaire de Moïse. Et il a donné des lois. Et il a dit, vous les apprendrez à vos enfants, vous les inculquerez à vos enfants, vous leur montrerez le bon chemin, vous leur expliquerez la loi, vous leur expliquerez pourquoi ils sont le peuple de Dieu et pourquoi ils sont une nation sainte, séparée des autres nations. C'était quelque chose de très, très, très important. C'était ce témoignage de la délivrance de l'Égypte. Et là, Asaph fait une comparaison, la délivrance qu'ils avaient éprouvée, la délivrance de Jérusalem, pas du temps d'Ézéchias, et il a fait la compare à la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte. Et il dit, on ne cachera pas tout ça à nos enfants, on le racontera. Et c'est ce que je voudrais souligner ce matin, plus particulièrement. C'est le témoignage que nous, adultes, eh bien, nous rendons à nos enfants. C'est très, très important. Dieu nous a délivrés. Nous étions un peuple esclave. Nous étions esclaves de ce monde, esclaves du péché. Nous étions sous la dépendance de Satan. C'est un jour, nous étions perdus dans nos péchés et Dieu, dans son immense bonté, a pourvu à un salut. C'est le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être pardonnés, pour que nos péchés soient effacés. Nous étions sous la condamnation de Dieu. Nous étions exactement comme tous ceux qui sont dans ce monde. Nous ne cherchions pas Dieu. Nous ne vivions pas pour Dieu. Et Dieu, eh bien, un jour, dans sa miséricorde, s'est fait connaître à nous. Un jour, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Je me rappelle quand j'étais un converti, quand je n'obéissais pas à Dieu, quand je suivais ma vie, et un jour, Dieu, dans sa miséricorde, s'est révélé à moi. J'étais perdu et Dieu m'a sauvé. Un jour, je me rappelle très bien, ce jour où j'ai compris que j'étais perdu et que le jugement de Dieu était sur moi. Et je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Je connaissais l'évangile, je connaissais le salut de Dieu, je savais comment on pouvait être sauvé. Et pendant des années, j'avais mis tout ça de côté parce que je ne le reniais pas, mais je préférais vivre ma vie et je voulais vivre indépendamment de Dieu au moins quelque temps. Et puis un jour, j'étais arrêté. J'ai compris en une seconde. Je travaillais sur un chantier et j'étais en pleine action parce que on avait un travail très dur à faire qui nous mobilisait tous, toute l'équipe. Et puis, à un moment, je dis, mais je regardais autour de moi, je dis, mais tu es perdu? C'est tout ce que tu fais pour ton salut? C'est comme si je me réveillais d'un rêve, comme si je prenais conscience de la réalité. Je dis, mais tu es perdu? Et tu ne t'en inquiètes pas plus que ça? Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, je n'ai pas demandé une vie à Dieu, j'ai demandé des heures. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas m'arrêter maintenant, mais donne-moi la fin de cette journée. Quand je rentrerai, je mettrai ma vie en règle avec toi. Et quand je suis rentré, je me suis mis à genoux. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Et j'ai accepté le salut de Jésus-Christ. Que son sang me purifie de chaque péché. J'ai accepté que ce salut devienne mon salut. Et ce jour-là, j'étais lavé de mes péchés. Je me suis mis à genoux, pécheur perdu. Et je me suis relevé, pécheur sauvé. Réconcilié avec Dieu, lavé de mes péchés, une nouvelle créature, la paix de Dieu était dans mon cœur. Je pouvais louer le Seigneur. Je peux vous dire, je rendais grâce à Dieu constamment. J'étais sur mon vélo, j'allais travailler et je me suis dit, mais tu es en train de rendre grâce à Dieu. Je réalisais que ma bouche était remplie de louanges et d'adoration pour le Dieu qui m'avait sauvé et qui m'avait réconcilié avec lui-même. C'est quelque chose d'immense. J'étais perdu, je suis sauvé. Ma responsabilité en tant que chrétien, nouvelle créature, et là je parle de moi-même, mais chacun pourrait dire la même chose. Je suis responsable pour transmettre ce témoignage et pour vivre une vie conséquente, une vie qui est en rapport avec ce salut que Dieu m'a offert, cette nouvelle naissance. Je suis responsable pour le transmettre non seulement à mon semblable adulte comme moi, mais à la génération future, à la génération qui vient, le transmettre, transmettre la grâce de Dieu, transmettre la puissance de l'Évangile à ces enfants qui sont là et qui entendent, qui écoutent. Et c'est une grande responsabilité. Et malheureusement, ce qui est arrivé, c'est comme, vous savez, le peuple d'Israël, ce sont des êtres humains comme les autres. Et ce que nous trouvons en défaut chez eux, nous le retrouvons exactement en défaut chez nous. Si eux n'ont pas transmis à leurs enfants, nous, nous avons le triste privilège, eh bien, de faire la même chose. Et s'ils n'ont pas transmis et pas transmis cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu d'avoir affranchi le peuple de l'esclavage d'Égypte, eh bien, nous avons du mal à transmettre aux enfants, à nos enfants, le témoignage de notre libération des chaînes du péché, de l'esclavage du monde. Et nous disons peu de choses et nous rendons peu de témoignages. Et c'est là que se trouve le plus grand défaut. Les générations se sont suivies et ne se sont pas ressemblées. Il y a eu des périodes dans l'Église, ce que l'on appelle des périodes de réveil. Et ces périodes étaient vraiment des périodes extraordinaires où les chrétiens se sont vraiment mobilisés et où beaucoup de personnes ont accepté l'Évangile et sont nées de nouveau. Et ça a changé même l'histoire de ce monde. Il y a des nations entières qui ont été transformées parce que il y a eu des personnes qui ont entendu l'Évangile, qui l'ont transmis avec la puissance et la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et la génération suivante était remplie de cet enthousiasme. La génération qui venait après était moins enthousiaste. Et la génération qui venait après ne l'était plus du tout. Ça dure 3 générations. C'est parce que la première génération, dans son enthousiasme, l'a transmis à la deuxième. La deuxième l'a pas transmis à la troisième. Et la troisième n'avait rien à transmettre. Et ça a été une vie chrétienne médiocre. On a survécu et on a fait les choses. Et si bien que, arrivé à un certain moment, eh bien, l'Église de Dieu est tiède. Et ce n'a pas de témoignage, pas d'influence sur le cours de son histoire. Et si bien que, bien, laisse tomber les choses. On s'est réunis d'une manière formaliste, pas avec un cœur rempli d'enthousiasme, d'amour et de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. On est tiède. On est tiède. Et c'est un malheur que la tiédeur. Parce que ce que l'on transmet à la génération suivante, c'est notre tiédeur. Et combien de chrétiens, je peux vous dire combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire: oh oui, mais vous savez, c'est difficile, et ce n'est pas. Et c'est ce qu'ils transmettent à leurs enfants. Au lieu de dire: notre Dieu reste le Tout-Puissant, malgré les circonstances, malgré ce qui est difficile, Dieu reste le même et il ne change pas. Il est le Dieu des délivrances, il est le Dieu des changements, il est le Dieu des transformations, il est le Dieu de ce qui semble être une défaite, une déroute complète. Eh bien, il peut le transformer en une victoire complète, à une progression et un élan nouveau. Nous avons un regard triste et médiocre sur ce qui nous entoure. Et combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire des paroles négatives et défaitistes. Comment? Notre Dieu n'est pas le Tout-Puissant? Il n'est pas le grand Dieu? Il n'est pas le Dieu des délivrances? Et je crois que s'il y a une repentance à avoir, eh bien c'est sur ce sujet-là. C'est de n'avoir pas regardé le Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il est, le Dieu Tout-Puissant. Et nous transmettons, parce que nos enfants, nos petits-enfants, entendent nos paroles négatives, nos paroles défaitistes, et ils les assimilent. Et nous inculquons en nos enfants notre pessimisme et notre défaitisme. Si bien que la génération qui y suit, eh bien, elle est imprégnée dès son plus jeune âge, sans même savoir qu'il y a un Dieu ou qu'il y a quelque chose, eh bien, notre esprit de défaite lui est inculqué. Combien de fois j'ai entendu: oui, mais vous savez, mes enfants, ils ne marchent pas avec le Seigneur, hein. Mais pourquoi? Parce que dans notre influence, dans notre manière d'être, dans notre vie de tous les jours, dans nos paroles les plus banales, eh bien, nous transpirons l'incrédulité. On prend des multitudes de décisions et Dieu est absent. Et cela, nous le transmettons à la génération suivante. C'est combien de choses sont faites sans Dieu par des chrétiens. Et quand les enfants, eh bien, arrivent à l'âge adulte, eh bien, ils font exactement la même chose que ce que nous avons fait. Et même parfois, en pire. Et c'est dommage. C'est un drame. Parce que ce qui est arrivé, Dieu avait délivré le peuple d'Israël. Ils avaient traversé la mer Rouge. Il y a les 10 plaies d'Égypte. Si vous lisez le psaume 78, vous verrez qu'il est question aussi des 10 plaies d'Égypte et comment Dieu a délivré le peuple de l'Égypte. Et les générations se sont suivies les unes après les autres et ils ont mis en oubli tout cela. Et un jour, eh bien, l'ennemi est aux portes de Jérusalem et il y a un jugement de Dieu. C'est le peuple n'est Le jugement est suspendu pour une seule raison. Ézéchias était un bon roi et qui a eu à cœur de revenir à Dieu. Le jugement de Dieu n'est pas allé plus loin, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient impeccables. Ils avaient beaucoup à réapprendre de ce qu'était Dieu et de la puissance de Dieu. Alors Asaph dit: on ne cachera pas ce qui est arrivé à la génération suivante. On le racontera Et puis, dans un autre psaume, il est dit, regardez Jérusalem, comptez ses tours, observez ses murailles, voilà le Dieu qui est notre Dieu, et nous l'adorerons à jamais. C'est parce que il venait de sortir d'une très, très grande épreuve. Mais notre responsabilité, nous, en tant que chrétiens, en tant que parents, en tant qu'éducateurs chrétiens, en tant que modèles, nous devons porter le témoignage que Dieu reste le Dieu vivant. Même si les circonstances sont troubles, même si c'est difficile, je peux vous dire, le meilleur service que vous pouvez rendre à vos enfants, c'est de corriger les paroles négatives que vous pouvez avoir. Oh, et encore, c'est difficile. Oh, mais notre président est ceci. Et même ces paroles contre nos dirigeants et contre les personnes et tout ce que nous disons qui est négatif et qui va vers le bas, eh bien, nous devons le corriger. Nous devons éliminer tout cela. Quel regard nous portons sur le monde, sur les événements et tout cela? Est-ce que c'est le regard d'un pessimiste? Ou est-ce que c'est le regard d'un chrétien qui a foi en Dieu, qui a confiance dans le Dieu Tout-Puissant, dans le Dieu qui tient toutes choses dans sa main, qui a les événements dans sa main? Il est dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est les premiers versets, verset 3 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Il tient toutes choses dans sa main. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu reste le Tout-Puissant. Il restera le dernier, c'est celui qui mettra fin aux événements. Et nous plaçons notre confiance en lui. Nous désirons que la génération qui suive, eh bien, reprenne le flambeau après nous, avec de meilleurs atouts, avec une meilleure foi, avec une meilleure compréhension de la parole de Dieu. C'est jamais vous amènerez vos enfants plus loin que vous-même. Si vous êtes un chrétien médiocre, vos enfants seront des chrétiens médiocres, ou même pas chrétiens du tout. Et je me rappelle, quand j'étais en colonie de vacances, il y avait un jeune sa bouche était remplie d'histoires sales. Remplie d'histoires sales. Et moi, ce genre de personne, je ne fréquentais pas. Ils allaient dans une direction, moi j'allais dans l'autre. Je ne m'intéressais pas à leurs histoires. Et puis il y a une jeune fille qui m'a dit, mais tu n'écoutes pas? Alors, je dis non, ça ne m'intéresse pas. Elle m'a dit, mais oui, mais si, c'est le fils d'un pasteur. Voilà, belle référence. C'était vraiment une tristesse. C'était à pleurer, à pleurer. Comment? Même celui qui avait la bouche la plus sale, c'était le fils du pasteur. Et je connais des personnes qui ont été responsables dans des églises. Pas un de leurs enfants marche avec le Seigneur. Et ils vivent dans des péchés parfois pires que le monde. C'est pourquoi, quel témoignage, quelle éducation qui a été donnée. C'est parce que il y a ce que l'on dit, mais il y a ce que l'on est. Et les enfants perçoivent beaucoup plus ce que l'on est que ce que l'on dit. C'est avant qu'ils comprennent ce que l'on dit, ils comprennent ce que l'on est. Et c'est si vous n'avez pas été un chrétien pieux, pas un hypocrite, pas quelqu'un qui a une façade de piété, mais vraiment quelqu'un qui a de la piété, quelqu'un qui prend Dieu au sérieux, qui vit vraiment sa vie chrétienne, authentiquement, du plus profond de son être. Eh bien, cela va convaincre, mais même vos tout petits enfants. Et ils vont prendre des forces en Dieu. Et ils vont avoir comment dire, ce désir de marcher avec Dieu. Je peux dire une chose. Ma mère était une catholique, bonne catholique, fervente catholique, pieuse catholique. Et pour moi, je ne sais pas d'où date ma croyance en Dieu. Et mon amour pour Dieu. Autant que je me rappelle, aussi loin que remontent mes souvenirs dans ma petite, toute petite enfance, Dieu est important pour moi. Et l'amour que j'ai pour Dieu est depuis ma toute petite enfance. Pourquoi? À cause de la piété de ma mère, qui aimait Dieu plus que tout. C'est comme cela. Elle ne me l'a pas inculqué, Elle ne me l'a pas prouvé, mais Dieu est Dieu pour moi depuis ma toute petite enfance. Et d'une manière continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi? Parce que même dans une fausse religion, même si ce n'est pas la bonne, même si c'est tout cela, il y avait Dieu. Et quand j'ai eu un problème dans ma vie, vers qui je me suis tourné? Vers Dieu. Un jour, je me rappelle, j'avais 10 ans, je suis allé dans la forêt, je me suis mis à genoux et j'ai prié Dieu. Et j'ai dit, Dieu, je te donnerai ma vie si tu me sors d'ici. J'étais dans une situation très difficile. Et j'ai crié à Dieu à 10 ans. Je me suis tourné vers lui et je lui ai dit, sors-moi de là et je te donnerai ma vie. C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui aimait Dieu dans mon entourage immédiat et qui m'a donné cet amour pour Dieu. C'est ce qu'une mère catholique pouvait transmettre à un enfant, eh bien, l'a transmis. Et je l'en suis reconnaissant. Et ce qu'il y a, c'est que vous, parents, si vous parlez légèrement, et si vous traitez la parole de Dieu légèrement, si vous parlez de Dieu comme un sujet de conversation et de polémique, et je ne suis pas d'accord avec ce que dit celui-là, et je ne suis pas cette chose-là, et tout cela, même si les enfants ne comprennent pas vos arguments, parce qu'ils sont trop petits, ils comprennent vos revendications et votre mécontentement. Et les tiraillements qui sont dans votre voix, et toutes ces choses-là. Et vous inculquez à vos enfants quelque chose de négatif, quelque chose qui va les conduire vers le bas, qui ne les amèneront pas à l'amour de Dieu, et à la connaissance de Dieu, et à la recherche de Dieu plus tard. Vous pouvez transmettre à vos enfants 10 maisons, vous pouvez leur transmettre 1 million d'euros. Si vous n'avez pas transmis la foi en Dieu et l'amour de Dieu, vous êtes complètement à côté de la question. Je me rappelle d'un chrétien, il avait été un très grand évangéliste, et puis pour diverses circonstances, il avait abandonné, et il avait ouvert une très grande entreprise, et il avait plusieurs agences dans le pays. C'était un grand pays, c'était les États-Unis, et c'était un Français. Et je connaissais bien. La fille de ce gars-là. Son fils avait une immense fortune entre les mains. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est drogué. Il s'est drogué. Qu'est-ce qu'il lui a transmis? De l'argent. Il n'y a pas transmis une raison de vivre. Il n'y a pas transmis une raison de vivre. Et la bonne raison de vivre, c'est-à-dire Dieu. Parce que s'il y avait transmis Dieu, eh bien, ça l'aurait gardé. Il n'aurait pas eu besoin de lui dire, oh, mais tu sais, la drogue, fais attention, hein, c'est très, très mauvais pour ta santé, hein. Ça peut te rendre dépendant et tu risques un jour de mal tourner. Mais on n'a pas besoin de transmettre cela autant que de transmettre la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu. Et si on transmet l'amour de Dieu par notre vie, par ce que nous sommes. Pas par nos paroles et par nos arguments. Parce qu'un enfant de 2 ans, vous ne lui présenterez pas des arguments sur l'existence de Dieu, etc. Mais c'est votre piété, votre amour pour Dieu, votre enthousiasme pour Dieu, votre passion pour Dieu. C'est cela qui va comprendre. C'est quand vous êtes le chrétien authentique, c'est cela qu'il va voir. C'est cela qui va le toucher et qui va l'amener à faire les bons choix. Tandis que si vous discutez, si Dieu est seulement un sujet de conversation, si c'est seulement vous ouvrez la Bible de temps en temps et vous lisez un passage, si votre piété et votre vie chrétienne est formaliste, vous ne le convaincrez pas. Vous ne le convaincrez pas. Ou plutôt, vous allez le convaincre du contraire. Et ce que votre formalisme, eh bien, l'éloignera de Dieu. Et parce que c'est en toute honnêteté, et la plupart des gens sont honnêtes, eh bien, ils rejettent le formalisme. C'est le formalisme a une odeur de quelque chose de faux, de mauvais, de corrompu. Alors, quand on transmet à nos enfants le formalisme, à un certain moment, honnêtement, ils le rejettent. Parce que ce n'est pas la preuve, ce ne les a pas convaincus. Il manque d'authenticité. Le formalisme est quelque chose de mauvais, de corrompu. C'est une forme. C'est un mensonge. On dit quelque chose et on ne le croit pas au fond de nous-mêmes. Et les enfants n'adhèrent pas à ce mensonge. Et plus tard, sans même qu'il y ait une démarche ou quoi, ils le rejettent comme quelque chose de mauvais, parce que ça sent le mensonge et ils aiment la vérité. Et on ne peut que leur rendre cette justice qu'ils ont choisi d'être au moins vrais et de ne pas choisir une vie de mensonge. Et malheureusement, souvent, ce qui est transmis dans certaines familles chrétiennes, eh bien, c'est le formalisme, c'est-à-dire un mensonge, et que les enfants, à l'âge adulte, rejetteront. Et déjà, ils en sont très méfiants dans leur enfance, et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils n'y prennent pas goût parce qu'ils n'aiment pas le mensonge, ils n'aiment pas le formalisme, et puis au fur et à mesure, eh bien, ils vont rejeter cette fameuse religion des parents qui est formaliste et qui est un mensonge. Et c'est malheureusement, ils ont rejeté Dieu en même temps qu'ils ont rejeté le formalisme de leurs parents. Et c'est ce qui est arrivé, c'est la triste histoire que nous lisons dans les Écritures. C'était des formalistes. Et nous, eh bien, nous reproduisons la même chose, la même chose. Un jour, dans notre vie chrétienne, on doit faire un sursaut et se dire, mais jusqu'à quel point je crois ce que je prétends, ce que je dis? Est-ce que ces choses-là sont vraiment dans mon cœur? Est-ce que je les vis vraiment? Ou est-ce que c'est seulement une forme? Est-ce que je vais au culte le dimanche avec le désir d'adorer Dieu, de chercher Dieu? Ou est-ce que je vais au culte le dimanche parce que c'est une habitude? Parce que si je n'y allais pas, eh bien, les gens penseraient que je commence à être un mauvais chrétien. Est-ce que les choses sont faites à cause du regard des autres, ou est-ce que je l'ai fait parce que j'aime Dieu et parce que Dieu est important pour moi? C'est parfois, il faut se poser des questions. Et même, je peux vous dire, posez-vous des questions souvent et remettez en question votre manière d'être et pourquoi vous faites les choses. Il y a des personnes, et pourrais citer des noms, de personnes qui sont satisfaites d'une chose, de l'opinion des autres. Si les autres jugent qu'elles sont de bons chrétiens ou bonnes chrétiennes, eh bien ça suffit. Après, leur vie peut être n'importe quoi, hein. C'est comme on dit, il ne faut pas vivre dans leur famille, hein. C'est fréquenter-les à l'église, mais pas chez eux. Parce que chez eux, ils sont autre chose que ce qu'ils sont à l'église. Si vous avez deux vies, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas avoir une vie à l'église et une vie courante, une vie à votre travail, une vie dans votre famille, une vie avec vos amis. Notre vie chrétienne doit être la même partout. C'est le chrétien que vous êtes, vous l'êtes à l'église, vous l'êtes dans votre famille, vous l'êtes à votre travail, vous l'êtes dans vos amis, l'êtes dans vos loisirs, dans vos moments de relâchement, des moments où on est plus libre, on se laisse un peu aller, eh bien, là, on juge qui est chrétien et qui ne l'est pas. Et il m'est arrivé souvent, malheureusement, de rencontrer des chrétiens dans leurs moments de détente. Et alors là, je suis franchement étonné. Et je me dis, mais il n'y a rien qui correspond à la profession de chrétien, là. On parle exactement comme le monde. Il n'y a aucune différence. Si je ne sais pas que cette personne est chrétienne, s'il n'y a pas de différence avec quelqu'un qui est dans le monde. On parle de politique, on parle de ceci, on parle de ça, on parle de la pluie, du beau temps, dans un moment où on devrait se rencontrer en tant que chrétien. Je me rappelle, malheureusement, c'était un pasteur qui m'a expliqué que son téléphone, il avait trouvé un abonnement et que s'il résiliait son abonnement au bout d'un an, il pouvait continuer à recevoir des coups de téléphone, mais il ne payait plus l'abonnement. Mais c'était une réunion de pasteurs, hein. Nous étions normalement, en tant que pasteurs, réunis pour quelque chose de très important. Je me dis, mais tout ça, que je l'entende de la bouche de quelqu'un du monde, d'accord? mais pas de la bouche de quelqu'un qui est chrétien et qui fait profession d'être serviteur de Dieu. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Vous savez, autour de nous, il y a une multitude de gens qui meurent sans Christ, qui n'entendent jamais l'Évangile. Personne ne leur va leur annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose d'important que quand nous nous réunissons en tant que chrétiens, qu'il y ait au moins 5 minutes. Oh, je plaide pour 5 minutes quand vous vous réunissez en tant que chrétien avec d'autres chrétiens de prier pour un monde perdu, un monde qui ne connaît pas l'Évangile. Votre cœur n'est pas brisé d'entendre qu'il y a des millions de personnes autour de vous qui n'ont jamais entendu l'Évangile et qui ne l'entendront probablement jamais parce que personne ne va vraiment annoncer l'Évangile. Pourtant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous, eh bien, on peut raconter nos histoires, la pluie et le beau temps. On peut parler de téléphone portable et d'abonnement et de machin et de trucs, alors qu'il y a si important, si important. Quand nous allons nous trouver dans la présence de Dieu pour l'éternité, de quoi allons-nous parler? Pas de toutes ces choses, vous savez, elles seront passées. Ce sera terminé. Ce qui est votre intérêt aujourd'hui fera votre honte dans l'éternité. Parce qu'on n'a pas transmis à nos enfants, à ceux qui nous suivent, les bonnes valeurs, les bons centres d'intérêt. On leur a transmis l'esprit du monde, la recherche des choses de ce monde, le dernier film, le bon acteur, la dernière chanson. Ça n'a aucune importance, ça n'a aucun intérêt. Ce qui a de l'intérêt, le véritable intérêt, c'est où j'en suis par rapport à Dieu. Où est ma vie chrétienne? Est-ce que Dieu est vraiment, je suis en communion aujourd'hui avec lui? Est-ce que le Seigneur Jésus fait la joie de mon cœur à cet instant même? Est-ce que je peux transmettre des paroles pieuses à mes enfants? Leur parler vraiment de Dieu avec tout l'amour de Dieu que j'ai dans mon cœur? La parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Si la lumière disparaît, si le sel de la terre perd sa saveur, où est le sel de la terre si nous ne sommes plus là? Il y a un dernier verset que je voudrais partager avec vous. Il se trouve le verset 57. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. J'ai toujours été intéressé par ces paroles. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Un arc trompeur. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes dans la guerre. C'est-à-dire en danger. En danger. C'est un moment dangereux. Et vous avez un arc entre les mains. Une arme pour vous défendre et pour attaquer. Et voilà, cet arc, vous tirez une flèche, et au lieu d'envoyer la flèche dans la cible que vous avez choisie, eh bien, ça part ailleurs. Et à chaque fois que vous tirez une flèche, elle part dans un mauvais sens. C'est un arc trompeur. Ils tournent. Ils ont tourné comme un arc trompeur. C'est-à-dire que l'arc, dans sa fibre, eh bien, il y a un défaut. Au lieu que ça soit rectiligne, eh bien, ça part un tout petit peu à droite, un tout petit peu à gauche. Si bien qu'au bout du compte, vous avez complètement raté votre cible et vous risquez votre vie. Votre vie est en danger. Ils tournèrent comme un arc trompeur. C'est-à-dire qu'on met sa confiance, sa survie dans une arme et cette arme ne remplit pas le rôle qu'elle devait remplir. Et je peux vous dire, mettez votre nom là. J'ai tourné entre les mains de Dieu comme un arc trompeur. Ne mettez pas Israël, ne mettez pas les Juifs là-dedans. Mettez votre vie, mettez votre nom et dire, est-ce que dans ma vie chrétienne, j'ai été droit? Est-ce que Dieu peut tirer les flèches droitement? Est-ce que les paroles que je dis sont des paroles droites, justes, vraies? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Est-ce que Dieu peut m'utiliser pour son service? Pour faire quelque chose qui est à sa gloire.